Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, c'est parti, le Super Moscato Show. Il est 15h04. On y revient, bien entendu. On mastique comme tous les jours. Vous savez qu'on est là de 15h à 18h du lundi au vendredi. Attention, les podcasts, ça tombe comme à Gravelot ou comme à la Grande Motte. Pierrot, vous choisissez le terme que vous voulez, mais 5-6 millions tous les mois, nous sommes avec celle qu'on appelle dans le milieu marseillais, la petite Bartole, Marion Bartoli. Comment elle va?
Notre flamme
olympique, notre briquet, notre Dupont. Notre Zippo. Oui. Comment ça va?
Ça va nickel, les amis, et vous?
Bah bien, impeccable. On est là, on a passé un bon week-end, hein. On déroule.
Oui.
Nous sommes avec Steve Foulébrin.
Salut Vin, salut Marion, salut tout le monde.
Salut Steve.
Ça va, en pleine forme?
Qu'est-ce qu'il dit le mec?
Bon, écoute, ça va.
Il est en forme ou pas?
Ouais, très bien, très bien.
Mais plein de balles ou demi-tête?
Non, plein de balles.
T'as regardé quelques matchs de basket?
J'ai regardé quelques matchs de basket. qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le Grand Prix de Miami hier soir.
Mais t'as regardé la finale de Madrid ou pas?
J'ai regardé les filles, j'ai pas regardé les garçons. Les filles étaient plus intéressantes que les garçons.
Non. Oh. Ouais, je préfère les filles que les garçons.
Oui.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bien. Et toi, mon petit?
Bravo Vincent, puisque tu as débuté ton spectacle à Rochelle ce week-end. Et selon les spécialistes, selon ton producteur, selon tes co-auteurs, selon tout le monde, tu as été exceptionnel.
Félicitations Vincent.
Télérama, t'as mis 4 sur 5.
Ça, je pourrais bien le voir.
Si ton Télérama, il a un thé un jour, Vincent,
je sais pas si ce serait bon signe s'il a parlé Télérama.
Ami Télérama, faut pas aller voir Vincent.
Télépoche.
La question moyenne du jour. Ah, la question Kiki. C'est la question Kiki, parce que là on est la veille peut-être d'un grand moment ou pas, Marion, pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé marquera son prochain but au Parc des Princes avec petit 1, le Paris Saint-Germain, petit 2, le Real Madrid, petit 3, avec l'équipe de France de foot, le 6 septembre 2024 face à l'Italie, les Bleus joueront au Parc.
Non,
Mbappé marquera son prochain but au Parc avec quelle équipe? PSG.
C'est sûr, avant.
En Ligue des Champions, je précise, les amis.
Ah ouais, la Ligue des Champions commence
l'an prochain. Ou l'équipe de France.
Fin août, donc bon, ça c'est fait. Donc il marquera un but avant d'aller en équipe de France. Il le marquera dès demain avec le PSG.
Dès demain avec le Paris Saint-Germain. Pierre Dorian.
Ouais, demain. Sinon,
c'est bail. Demain. Demain pour Marion, monsieur. Pareil, Marion, c'est ça, demain.
Hein. Ouais, pareil.
Monsieur Brun, Stephen Brun.
Monsieur Brun, je vais te la faire en anglais. Tomorrow.
Pourquoi en anglais? Mr. Brun,
je sais pas, j'ai envie de changer.
C'est bien.
En espagnol, sinon demain, Vincent. On peut le faire, toi. Bon, la France du Moscato Show est plutôt optimiste pour demain. En tout cas, pour un but de Mbappé, vous répondez à 75% le Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Paris Saint-Germain. 75%,
c'est beaucoup.
75%. 12 petits pourcents avec le Real et il y a l'équipe de France qui se glisse là comme ça en septembre face à l'Italie, on sait jamais.
Mais parce que l'équipe de France, on sait qu'ils vont jouer au Parc, mais le Real Madrid, on sait pas s'ils vont jouer au Parc.
Ils vont affronter un jour en Ligue des Champions, bien sûr.
Ça arrive tous les deux jours. On n'est pas sûr dans les poules.
Arrêtez de réfléchir, c'est demain. Il va planter le
Tomorrow.
Tomorrow.
Combien il en met de buts demain?
Demain.
Il peut en mettre 2.
Il va les enfiler comme des perles. 5.
Il peut en mettre 2.
Il en met. Et puis on va
mettre. Mais en plus.
Allez. Ouais, Vitinha, un petit croisé là.
Tu aimes les trappes de Vitinha, toi.
Et ouais, c'est vrai, parce que pendant très longtemps, je croyais que c'était une pipe, parce que je confondais avec celui de Marseille.
Oui, tu savais pas qu'il
avait qu'un Vitinha.
C'est vrai qu'il avait qu'un Vitinha. Alors, des fois, j'osais pas demander, mais j'étais dans le trouble.
Ça a duré jusqu'au 5 janvier,
pourquoi il parle de Vitinha avec le PSG? Je ne comprends pas. Donc, ça a duré très longtemps.
Et t'osais pas demander le sujet.
Non, mais c'était confus.
C'est pour ça que des fois, il lui disait, mais il y a des doubles licences.
Non, mais oui, non, mais parce que c'est confus quand même. T'as deux mecs qui joue à Marseille, c'est quand même les clubs qu'on parle le plus. T'en as deux, un à Marseille et un au PSG. Donc automatiquement, c'est pas pareil.
Et tu t'en es rendu compte le jour où j'ai fait une question moyenne, quel Vitinha marquera le plus de buts, l'OM ou le PSG?
Non, mais vraiment.
c'est vrai, j'ai vu dans son regard, il a fait ça, c'est pas possible.
Non, mais Pierrot. Vigna,
c'est le diminutif de Victor.
Oui, mais si t'avais un Mbappé, puis il y en a un autre dans un autre club. Marseille, notamment, tu vois, on en parle beaucoup. Tu serais troublé quand, si tu ne le savais pas. Tu sais, quand même, moi, je ne le savais pas.
Voilà. On va en parler du PSG à 16h. Le PSG peut-il être confiant? La confiance du PSG, parce que tu sais, c'est la méthode Coué en ce moment à Paris.
Oui.
C'est oui, on va le faire.
Oui. Voilà.
Donc, le PSG peut-il être confiant? Vincent Moscato règle le problème à 16h sur RMC. Avant cela, la Coupe d'Europe de rugby, la Champions Cup, Leinster, Toulouse, qui a l'avantage psychologique? Même Hugo Mola a reconnu que Toulouse a du mal face au Leinster. Pour te dire quand même. Hein.
Oui, en fait, ça, c'est de la façon modestique.
Et puis l'OM, on en parle à 17h. Pablo Longoria est-il toujours l'homme de la situation? Il est en train de faire le ménage autour de lui, Pablo Longoria.
Non, lui, c'est Don Corleone. Hein.
Le journal moyen à 15h45 pour la première édition, Adrien.
C'est la mauvaise nouvelle du jour, Vincent. Nous allons rendre hommage à un personnage qui est en quelque sorte un parrain du Moscato Show qui nous a valu le titre d'une chronique. Il présentait Apostruf il y a de nombreuses années. Apostruf, nous avons créé Apostruf. Nous avons appris la disparition de Bernard Pivot il y a quelques minutes, Vincent. Tu as participé aux dictées de Bernard Pivot devant ta télé, comme
sûr,
nous tous. Rendez-vous 15h45. Il aimait les sportifs, il aimait le sport aussi.
Il m'a invité,
Bernard Pivot. Non, il a plutôt invité Mohamed Ali. Il avait le choix.
Oui.
Entre Moscato et Mohamed Ali.
Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais 8 ans, et donc quand
ça il est venu,
ça se joue à rien.
Et puis, bien sûr, les cadeaux, le Kikadi pour gagner cette semaine votre séjour en mobilhome dans un camping Homer. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Et puis, les dernières places pour PSG Dortmund sont à gagner sur RMC. L'alerte peut tomber à tout moment. Et lorsqu'elle tombe, eh bien vous avez 5 minutes et pas une de plus pour envoyer PSG par SMS au 732-16. Ce sont les dernières places pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Tout de suite, la réaction du talonneur du Stade Toulousain après la qualification en finale.
RMC, le Super Moscato Show.
Et c'est fini ! Voilà, Toulouse qualifié pour la finale de Champions Cup. Une splendide demi-finale face aux Harlequins. Victoire 38-26.
Il y a eu une première mi-temps où c'était quasiment fait. Qu'est-ce qui se passe en seconde période?
Aïe, aïe, aïe. On va tout casser là, c'est la décennie bègle là.
Il y a eu un gros combat, il y a eu deux mi-temps aussi, deux visages. Est-ce que vous goûtez à un moment donné dans cette seconde période?
Si on pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas le groupe à péter le boulard. Ouais.
On s'attendait à un scénario, mais franchement, après votre première période, nous on s'attendait pas à cette seconde.
Et c'est la réussite d'un groupe, d'un collectif et d'une aventure humaine fabuleuse.
Breaking news.
Et on parle rugby.
Toujours douloureux le temps, mais je sais pas.
Avec le meilleur ami de ce talonneur là que vous venez d'entendre, c'est Denis Charvet. Salut Denis.
Salut.
Denis.
Bonjour. Pour une fois, Denis. Que c'est pas moi, c'est content. Non, c'est une fois
trop tôt. Marion. Prends une fois de l'essence, hein, Denis. On te laisse tranquille pendant ce temps-là. Quoi. On regarde. On regarde les quatre fois plus.
C'est une voix qui tombe du ciel.
C'est une voix de l'au-delà.
C'est bien toi, Denis.
Denis, c'est bien toi.
On appelle les esprits. Denis,
on a tous mis la main sur la table dans le studio.
Tu l'as frappé trois fois.
Frappe trois fois, Denis.
Je suis là-haut, je vous vois tout petit.
On va parler de cette finale de rêve le 25 mai à Londres. Le Leinster, qui est une équipe d'Irlande améliorée, face à Toulouse, qui est une équipe de France améliorée. Et pour une fois, Toulouse ne sera pas le grand favori d'un match de rugby. Parce qu'à l'inverse de La Rochelle, eh bien, le Leinster, c'est une équipe contre qui Toulouse perd plus souvent qu'il ne gagne. Leinster-Toulouse, qui a l'avantage psychologique, 32-16, ou Twitter, hashtag RMC Live. Même Hugo Mola, je vous le disais, a reconnu que c'était compliqué souvent pour Toulouse face au Leinster. C'était à l'issue de la demi-finale au micro de France Télévisions. Une sorte de bête noire de Toulouse, le Leinster.
Évidemment, ce club a beaucoup gagné, mais cette génération a les moyens de faire beaucoup. Maintenant, on va aller face à notre némésis, à notre ogre, à l'équipe qu'on a du mal à battre. Mais on ne les a jamais joués dans ce contexte-là, donc on va dire qu'on n'est pas facile à battre en finale, apparemment. Et on n'arrivait pas à les battre en demi, écoutez, on va voir ce que ça donne sur la finale.
Chasser le boulard, il revient au galop.
On est difficile à battre en finale.
Il revient en roulant.
Incroyable, non?
Ils ont le droit d'avoir le
même
boulard.
Même quand ils sont dans l'humilité, ils ont le boulard.
Oui, alors après, il faut qu'ils chauffent tout le monde.
Elle est incroyable, cette déclaration.
Ouais, elle est bien, ouais. Non, mais je trouve qu'elle
est. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie quand même. Elle est magnifique. Ils ne jamais en finale, donc elle est quand même.
Après, ils n'ont jamais joué en finale.
Non.
Écoute,
est-ce que tu dirais que pour une fois, c'est l'adversaire de Toulouse qui est le favori?
Je vais te dire un truc, pour une fois on ne sait pas.
D'accord.
Quand Toulouse est en finale, c'est rare qu'on se trompe. Chaque fois on dit Toulouse est en finale,
comme le Real, quoi.
On connaît le gagnant, mais un peu, oui, un peu. On connaît le gagnant. Là, c'est un adversaire, on ne sait pas. On a vu les dernières confrontations, La Rochelle. La Rochelle, ils n'ont jamais pris 40 points contre le Stade Toulousain. Non. Jamais. Ils ont pris contre Leicester. L'équipe de France, parce que là, c'est des équipes de France, comme tu dis, c'est pas des sous-équipes de France au Stade Toulousain.
Ce sont des équipes nationales améliorées.
Ouais. Améliorées. Mmh. Améliorées, attention, parce que tous les mecs qui rentrent en plus de les Irlandais, doivent y avoir une dizaine de mecs, mais les autres qui arrivent de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, sont très, très, très forts. Donc, attention, ça va gifler épais. Je veux te dire qu'il faut t'échauffer, là, parce que les premiers contacts sont terribles avec cette première ligne incroyable. Parce qu'on se dit que Bale, Movaca, Marchand et à droite, Aldeguerri, c'est une grosse première ligne. En face, c'est peut-être la meilleure première ligne du monde, avec ce 5 de devant incroyable. Donc, écoute, c'est la première fois où on n'est pas super confiant, où on ne parierait pas la métairie sur Toulouse.
51-49 ou même pas, hein? Même pas 51-49 pour
si,
Toulouse.
Si, c'est obligé de mettre un truc très très faible. Mais c'est 51-49 pour moi, pour Leicester. Tu joues à Tottenham. Tu joues à Tottenham. Tu joues quand même bon. Alors, c'est quand même, ils sont quand même plus près. C'est quand même.
450 km.
C'est 450 bornes. Ils sont quand même bon. Pas chez eux,
parce que les Irlandais.
Non, c'est pas leur stade. Mais enfin, bon, le stade sera quand même énormément aux couleurs de Leicester. Donc ça sera très chaud pour le Stade Toulousain. Encore une fois, je connais pas le gagnant. Bien entendu, je souhaite que ce soit Toulouse. Il y a aucun problème là-dessus. Je le souhaite. Quand tu vois les parties de Kroos, Dupont, de Merfou, tous ces mecs qui sont les meilleurs à leur poste du monde, c'est possible de la jouer. Mais ça va être chaud.
Je rappelle la première ligne de Leinster dont Vincent parlait. C'est Porter, Sheehan, Furlong. T'as McCarthy, Bologna, deuxième ligne, troisième ligne.
McCarthy.
Van der Flier, ancien meilleur joueur du monde. Tori, c'est Baird. C'est peut-être la meilleure meilleur pack du monde, Vincent.
Celle qui nous a détruit en match d'ouverture.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est ça.
Denis, est-ce que les Toulousains sont dans la peau de l'outsider?
Bah, eux, ils vont s'y mettre forcément, mais moi, je vais tous vous surprendre. Je pense qu'ils sont favoris. Je pense qu'ils sont favoris pour plusieurs raisons. Je crois que Leinster n'a pas l'équipe qu'ils avaient l'an passé. Ils sont moins forts. Moi, j'ai vu le dernier match contre le Northampton. Mm-hmm. Ils auraient très bien pu passer à la trappe chez eux devant 80 000 personnes. Ça s'est joué à une dernière action qui aurait très litigieuse. Et le match d'avant, ils avaient été un peu aussi chahutés chez eux. On les sent pas sereins, on les sent pas comme ils étaient avant, avec une maîtrise totale de leur jeu. Et inversement, mais je trouve que Toulouse, ils ont ce qui est impressionnant avec Toulouse, c'est l'adaptabilité à toutes les situations. L'adaptabilité à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Hier, c'est incroyable, quoi. Chaque fois, ils arrivent à trouver des solutions. Mais par contre, la force de Toulouse, je l'avais dit, c'est pas le jeu à la Toulousaine, c'est les avants. Les avants font un match incroyable devant deux, que ce soit mêlé en touche dans
points,
les rucks.
Ils prennent des points, Denis.
Non, mais ils sont allés chercher des ballons dans les rucks. Il y a eu 15 rucks. Ils sont allés chercher 6 ballons, je sais plus combien de ballons.
Mais Kroos a été incroyable.
Kroos a été incroyable. Flamand est revenu à son meilleur niveau. Movaca aussi. Enfin, on voit que les Toulousains sont en forme, sont en grande forme. Et puis, il y a le facteur X. Le facteur X, on a parlé au début de l'émission. Ouais. Antoine Dupont.
Ils sont toujours de front.
Moi, il me bluffe encore. J'arrive à être bluffé encore par ce garçon.
Mais il est plus rapide que
la prestation. La prestation qu'il fait hier, que ce soit. Non mais en défense, vous l'avez vu en défense, ouais. En défense, je parle même pas de l'attaque parce que l'attaque, on sait, il sait tout faire. Mais au pied, en défense, non, c'est vraiment le facteur X.
Cette qualité à
plus dernier élément, c'est Denis, quand même. Est-ce qu'un mec comme ça qui joue au rugby à 7, il serait bon à 15 parce que en équipe de France,
je sais pas.
Si on le sélectionnait en équipe de France, par exemple, on pourrait peut-être gagner le tournoi.
Tu vois, moi, je suis pas sûr. Je sais pas si je changerais
le jeu de l'équipe de France à 15. Ce garçon.
Faut que quelqu'un teste, faut le dire à Fabien de Vincent de
Louis. Et puis après, il y a un dernier élément que faut prendre en compte. Il y a Romain Tamac qui est très sobre, qui joue juste,
froid, ouais.
Qui est froid, exactement, et qui n'était pas là de la saison, qui a faim, qui a envie de titre. Non, il y a un contexte qui est complètement différent de l'an passé, et puis en plus ça se joue pour Leinster, ça se joue à Londres, donc moi je les vois vraiment favoris, je vois vraiment Toulouse s'imposer face à cette équipe de Leinster.
Ok, Marion.
Alors moi j'ai eu la chance d'interviewer Laurent Touéry qui est l'entraîneur de la défense hier dans mon émission et on sentait quand même à son discours que oui, il y avait une certaine confiance, mais avec quand même énormément de méfiance, voire de défiance, parce que sur leurs deux dernières confrontations, ils ont quand même pris deux douilles. Oui. Donc, on sent très bien que quand même, ça, c'est dans les têtes, c'est présent, c'est certain. Et il nous a parlé d'une tactique particulière, d'arriver à mieux les étudier, arriver à mieux préparer ce match. Donc, je vous rappelle quand même les résultats. En 2022, ils prennent 40-17. En 2023, ils prennent 41-22. Ah oui, donc, même si effectivement, ce contre Northampton, je suis d'accord avec Denis, ça a été une victoire très étriquée puisqu'ils gagnent que 20-17 et la dernière action est très litigieuse. Je trouve quand même que lorsqu'on a battu, même si c'était un stade de la compétition différent, une équipe de manière aussi importante, l'avantage psychologique, il est bien sûr pour celui qui a gagné ces deux rencontres précédentes. Ça ne veut pas dire que l'avantage psychologique va être suffisant pour que le Leinster l'emporte contre Toulouse, hein, loin de là de mes propos. Mais la question sur l'avantage psychologique, pour moi, c'est quand même à celui qui vient de gagner les dernières rencontres. Et surtout, encore une fois, ce n'était pas des scores étriqués. Et quand on interroge les gens de Toulouse, ils ont plutôt ce discours. Et quand j'entends l'intervention de François Gros, justement, après son match d'hier, il le dit, il va falloir qu'on fasse un match plein. Cette fois-ci, en creux, on va dire que le trou d'air qu'ils ont eu à la rentrée, où ils prennent 14-0 au début de deuxième période hier, ils ne vont pas pouvoir le répéter le 25 mai. Donc, en fait, tout le monde est quand même au courant qu'il va falloir encore élever d'un cran et que ça va être très compliqué.
Alors pour l'instant, il n'y a que Denis qui voit Toulouse favori. Stephen,
bah, écoute, moi je rejoins un peu Marion sur l'aspect psychologique. L'avantage psychologique est clairement pour l'équipe qui vient, qui mène 4-0 sur des confrontations très récentes depuis 2019 et surtout avec des scores fleuve coussat. T'as l'impression que le Leinster, c'est peut-être la seule équipe où Toulouse, il y a ce petit complexe d'infériorité. Sinon Toulouse, ils se présentent sur face à chaque équipe, ouais, c'est les meilleurs.
Toulouse en finale, ils ont gagné tout le temps.
Mais ouais, moi je vais vous répondre après.
Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe de la part du Leinster d'affronter un club français en finale de Champions Cup, parce qu'ils ont, on rappelle,
oui,
ils ont perdu deux fois contre nos amis Rochelais. Maintenant, Toulouse a quand même un jeu très offensif, c'est la meilleure attaque de Champions Cup. Et le Leinster, ça prend pas beaucoup de points quand même. Est-ce que qui va gagner, l'attaque de Toulouse ou la défense du Leinster? Je te pose la question, Vince.
Alors Vincent, réponds à la question.
Qui va gagner?
Ouais. Et c'est totalement celui qui garde
le ballon. C'est celui qui garde le ballon. Les autres n'ont pas du tout la même attaque. Eux, l'important pour un Irlandais, c'est de faire 450 temps de jeu.
D'avoir le ballon.
Donc ils ont à la limite pour caricaturer, ils ont des trois quarts qui jouent pas dans les moins dans les intervalles, et qui rentrent, qui vont faire des points de fixation.
Comment on fait?
Donc il faut être très fort sur la ligne de front, qui connaît des plaquages offensifs. Toulouse joue plus dans les espaces. Donc c'est la question de pouvoir récupérer des ballons, comme a fait François Cross, comme ont fait les Toulousains, au sol. Mais on sait très bien que quand les Irlandais sont plein badin, ils savent qu'ils ont un jeu qui est réglé sur le déblayage, ils perdent très peu de ballons. Donc c'est pas tout à fait le même style de jeu.
C'est
l'hyper conservation chez les Irlandais, et les autres sont capables de jouer n'importe quel coup, n'importe quelle situation, n'importe quelle relance, ils peuvent les jouer différemment. Mais par contre, ils peuvent perdre davantage de ballons.
Denis ?
Non, mais la lecture, on la connaît, quand on voit les Leinster, on sait comment ils jouent. Mais regardez La Rochelle, ils se sont adaptés au Leinster deux fois. Alors, un peu miraculeusement, parce qu'ils gagnent à la fin la première finale, et puis la deuxième, ils remontent de 17 points, c'était à l'inverse. Mais chaque fois, ils ont trouvé des solutions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas affolés. Ils ne se sont pas affolés de tout le match. Ils ont cru en leur étoile. Et puis, c'était une finale. Je pense que le contexte fait que c'est différent. C'est pas une demi-finale, c'est une finale où t'as tout, tes chances, c'est pas les mêmes. Et la preuve, c'est que le Leinster n'a pas su maîtriser ces deux finales. Et puis pour finir, c'est sur la stratégie. Je pense sincèrement que Toulouse ne va jamais jouer contre le Leinster comme ils ont joué contre Harlequins. Jamais de la vie. Il va y avoir de la dépossession, beaucoup plus de dépossession, parce qu'on sait très bien que Girondins, il faut les renvoyer chez eux et puis faire un gros pressing chez eux et puis défendre à mort la ligne. Et je pense que ça sera différent. Ça sera un match totalement différent.
Est-ce que Ramos sera pas titulaire parce que
Si,
Ramos sera titulaire.
D'ailleurs,
il a annoncé un peu dans le middle, tout ça. Si tu dis entre les lignes, Ramos sera titulaire en finale.
Oui, parce que Denis, quand il lit le middle, il lit entre les lignes. Le middle, il y a toujours un fond caché.
Oui, bien sûr, il y a tout.
Mais oui.
Les numéros 3, quand tu vas chez les lunettes, à la pharmacie, les numéros 3.
Dans la gare, la résistance passait des messages dans le middle.
Ah, ouais, sur lui aussi.
Il te faut lire le middle avec du citron et un briquet, parce qu'il y a des codes. Ils te mettent du citron comme les agents secrets. Avec le briquet dessous, l'écriture apparaît.
À surveiller Kinghorn aussi, qui, vous avez vu, son nez, il a publié une photo de son nez après le match. Son nez tourné, qui était droit avant le match,
ouais,
comme, comme celui de Pierrot, était totalement tordu à la fin du match.
Mais c'est pas grave ça, Walter Spagnuolo disait s'il n'y a pas eu le nez.
Il est incertain pour le match face au Stade Français déjà ce week-end en top 14, Kinghorn.
Comme disait Walter Spagnuolo, s'il n'y a pas eu le nez, j'aurais pris plein de figures. S'il n'y avait pas eu le nez, j'aurais pris plein de figures.
Il y en a qui ont le nez tordu, l'autre les cornes.
Alors, Mathieu, supporter du Stade Toulousain au 32-16. Salut Mathieu.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
What's up, Mathieu?
Comment
il va,
Mathieu?
Salut Mathieu. Ça va, ça va.
Alors, Mathieu, tu nous appelles de Toulouse?
Non, non, du Morbihan, je suis en breton quand même.
Ah ouais, t'es un breton, d'accord. Ah, oui. Il doit faire beau là en ce moment en Bretagne. Hein.
Ah bah oui, oui, oui. Hein, mais on a un dicton chez nous en Bretagne, il pleut que sur les cons. Donc les gens qui viennent ici,
c'est très bon.
Pas qu'on y aille.
Je te rassure, je serai de Paris-Tibes aussi ce week-end, j'y étais.
Alors, vous êtes favori ou pas?
Ben alors, ben c'est bien parce que un débat à 15h un lundi pour commencer la semaine pour savoir si Vincent est en forme, c'est bien parce que Vincent il mettra jamais Toulouse favori. Mais ça c'est si, voilà. Si, si. Mais c'est vrai que moi je trouve que moi je pense que Toulouse a quand même sur pour la finale le 25 mai, je pense qu'ils ont des ils ont des avantages déjà. On est déjà pratiquement assuré de jouer les phases finales, donc ça veut dire que on va pouvoir faire tourner d'ici la finale. On a un effectif quand même qui est très compétitif. Dupont est là, il est en forme. Ntamack revient. Je pense qu'on a une très bonne équipe et je pense que ouais, Toulouse en finale, ils savent jouer les finales contre La Rochelle quand ils gagnent le titre de top 14. Bah ils ont gagné le top 14 parce qu'ils savaient jouer la finale et Ntamack a su créer l'exploit et à la dernière seconde. Et je pense que si Toulouse gagne, bah moi je pense que c'est mérité. C'est pas comme si on va dire Bayonne qui arrive en finale de top de Champions Cup maintenant et qui gagne, là ça serait peut-être un exploit parce que c'est un petit club, mais là on parle
ça arrivera jamais ça.
Oui non mais bah, ça peut largement arriver parce que bon, on sait jamais sur un malentendu hein.
Ouais,
mais là Mathieu, on était plus sur l'avantage psychologique sur le fait que Toulouse puisse gagner.
Toulouse a un avantage, bah justement Toulouse a un avantage donc psychologiquement. C'est un club qui a une histoire,
qui a 40 de finale derrière, tout comme fondu.
Oui, voilà, c'est une expérience de finale.
Le Real Madrid, quand ils arrivent en finale de la Ligue des Champions,
l'institution.
Et ben c'est l'institution. Ah oui, on ne demande pas. Voilà, Toulouse, c'est pareil, c'est une institution.
Après, le problème, c'est que le Leinster aussi, en ce moment.
Oui. Exactement.
Ah bah oui, c'est sûr.
Et puis, comme dirait Pierrot, l'histoire de l'institution, enfin, ils ont quand même des joueurs, Toulousains. Hein.
Vincent, si le Real gagne et que Toulouse fasse, il faudrait qu'il fasse un match, une mi-temps foot, une mi-temps rugby. C'est comme
je pense.
Le mari contre les célibataires, c'est ce genre de match.
Je vous signale que Toulouse a perdu la seule finale, c'est contre Vincent.
C'est vrai, en 91. La chevauchée, on appelle ce match, la chevauchée de Vincent.
Tout talent qu'il y avait en face.
J'étais parti 6 mois avant.
Je sens comme pour la sélection que finalement, c'est toi, tu es un des seuls à dire ça, que l'absence de Sexton, qui a pris sa retraite, fait du bien au Leinster. Est-ce qu'ils sont encore plus dangereux sans Sexton?
Mais Sexton, il a été très fort.
Vincent le pense, Denis.
Tu
peux pas le blairer.
Je pense qu'en défense, c'est. Non, mais Sexton, c'était super.
Ils sont bons en défense.
Ne me faites pas dire ce qu'il me. Oui, mais sur la fin, quand même, ils jouent en profondeur. Rappelle-toi, sur la fin.
Les
Blacks, c'est une catastrophe. S'ils le sortent avant, ils peuvent attaquer la ligne. Derrière, t'as l'impression qu'ils peuvent. Quand ils sont. À un moment donné, il faut être un peu dangereux. C'est le fait de conserver le ballon au bout d'un moment. Tu le conserves, tu le perds au bout d'un moment. Le problème, c'est qu'avec lui, qui joue très loin de la ligne, tes trois quarts, ils sont inefficaces. Et à un moment donné, il aurait fallu le sortir à la mi-temps, contre le quart de finale qu'ils font contre les Blacks. Parce qu'il ne fixe personne. Il fixe personne. Et c'est un affaire. Un ouvreur qui fixe pas les mecs. Mais ça sert à rien, il faut garder les ballons devant. Voilà,
c'est le technicien.
Bravo, monsieur, dame.
Il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a récupéré Denis, c'est la deuxième fois que Denis a fait une petite intervention chez lui. Zéro saucisse. Alors, j'ai l'impression que c'est pas le cœur de Coco.
Non, mais attention.
J'ai l'impression que c'est le cœur de Bernard Pivot qui est parti.
Alors, ils ont pris le cœur de Coco, mais ils n'ont pas mis le. Non, ils n'ont pas mis le cerveau de Coco.
Il est très intelligent.
Il a passé adaptabilité comme ça, nickel.
Merci Mathieu.
N'oublie pas, Denis, qu'il te faudra quand même remonter. Tu ne peux pas faire le rentier avec nous parce que tu es quand même au purgatoire. Il faut te faire pardonner. Tu sais, tu vas être appelé quand même.
C'est quand même dingue. Le mariage de Mathieu, non ?
Mathieu ?
Même quand tu leur dis qu'ils ne sont pas favoris, ils le prennent mal.
Ah oui, c'est vrai.
C'est incroyable. C'est une maladie mentale, c'est incroyable.
Oui, mais c'est ça. C'est un capitalisme.
Sud-Ouest.
Quoi, Yannick, ça me gêne.
Quand la capitale du Sud-Ouest, Pierrot, t'es la capitale du
Sud-Ouest.
Quand t'as inventé le rugby, regarde Denis. Heureusement qu'à notre contact, il a progressé. Mais Denis, il a un boulard pas possible, ne te trompe pas.
Hein. Oui, c'est vrai, je le dis. Mais à l'époque, pas plus maintenant.
Si, maintenant, à l'époque.
Dans un instant, c'est un énorme cri de gueule sur le tennis, Vincent. On craint l'ennui pour quelques saisons, là, en tennis.
Oula, j'ai l'impression qu'on va pas être d'accord.
Mais non, mais il n'y a rien. 15h28, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h32, le Super Moscato Show. On y revient, bien entendu, au Mastic avec Marion Bartoli, Stéphane Brun. On est avec Adrien Gouin. Pierrot, mon petit Pierrot, dans une demi-heure,
le PSG utilise la méthode Coué. Le PSG peut-il être confiant avant cette demi-finale retour? Vincent Moscato règle le problème.
Bien sûr.
Tu sais comment on prépare une demi-finale, toi? Tu as
joué quelque chose? Joué 20, quoi.
Ça, c'est dans une demi-heure. D'abord, le tennis.
RMC,
le cri de gueule du super Moscato Show.
Salut Eric Salio. Salut Eric.
Bonjour Eric, tu vas nous donner des infos sur le plateau du tennis masculin mondial.
Avant cela, j'explique ce cri de gueule parce que c'est vrai que pendant quelques années, on a redouté ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une période peut-être d'ennui un peu longue qui est devant nous, Vincent.
Le trou.
Tout cela, on y a pensé quand on a vu le début de la fin pour la génération dorée, l'âge d'or du tennis, donc Federer, Djokovic, Nadal. On les voyait décliner, on s'est dit, aïe, que va-t-il se passer après? Et puis, bon, après tout, il fallait attendre, puisqu'il pensait qu'il y ait une nouvelle génération fantastique. Bon, on y est. Et force est de constater que la génération actuelle fait pas rêver. En tout cas, moi, elle ne me fait pas rêver. On a Yannick Sinner et Carlos Alcaraz qui peuvent écrire un feuilleton sympa, de très haut niveau, faire des affrontements légendaires en demi-finale ou en finale de Grand Chelem. Mais les deux, en ce moment, en tout cas, sont blessés. Et puis alors, les autres. Zverev avait donné un peu d'espoir. Pour l'instant, il déçoit. Medvedev a déjà 28 ans. Moi, je suis désolé, on est à l'approche de Roland, là. Rue des Runes, moi, ça me fait vraiment pas rêver.
Faut pas avoir peur de fermer Roland Garros pendant 10 ans si on n'a pas de génération.
Oui.
Plutôt que de proposer un mauvais spectacle. Il vaut mieux, si t'es un amoureux du tennis, de rien fermer.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'incertitude. Mais à part ça, on se demande à quoi va ressembler Roland Garros, Cédric, parce que pour l'instant, beaucoup de joueurs du top 10 et du top 15 sont en difficulté. Hein.
En fait, on a rarement vu une infirmerie aussi remplie à 17 jours du tirage au sort de Roland. Le service médical du Masters 1000 de Madrid a dû embaucher des ambulanciers pour évacuer les blessés à l'hôpital. Touché à l'avant-bras droit, Carlos Alcaraz ne disputera pas Rome. Le Foro Italico pleure aussi l'absence de l'idole locale Yannick Sinner, blessé à la hanche et qui a tenu une conférence de presse très pessimiste dimanche. Pas sûr qu'on le voit porte d'Auteuil. Daniil Medvedev, il a la lutteur qui siffle, mais bon, il est dans le tableau du Masters 1000 italien, mais je pense qu'il attendra le dernier moment pour décider. Finalement, Novak Djokovic a peut-être eu du nez en zappant Madrid. Le Serbe s'est enfourné à un gros bloc d'entraînement qui doit payer pour Roland et les Jeux, mais rien n'est garanti. Quant à Rafa Nadal, il veut définitivement se rassurer dans la ville éternelle. Il aura un premier tour abordable face à un qualifié, mais en cas de victoire, ce serait Hubert Hurkacz, 9e mondial, un véritable test. Moi, je me pose la question, avec un tournoi aussi ouvert, et si on avait droit à un vainqueur de Chelem inédit?
Inédit, c'est possible. Après.
Non, je n'ai pas écrit ça.
En grand favori, hein. Ce sera peut-être Djokovic le grand favori. Vincent,
moi, je pense que
t'as peur de t'ennuyer ou pas là?
Non, on ne va pas s'ennuyer quand même, parce que je pense que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Et donc je pense que ça va être Djokovic qui va prendre le truc, et que les jeunes, les Sinners, on voyait ce genre de mecs comme Medvedev et tout, peut-être le prendre. Les quatre tombes de blessés, tout ça. Djokovic a fait un gros bloc d'entraînement. Je mets un billet sur Djokovic, sans me forcer. Même après les autres forfaits, j'ai mal aussi, j'ai mal au coude, j'ai mal au pied, j'ai une verrue sur le nez. Au bout d'un moment, on en a marre, un panari. Le pauvre Alcaraz, quand c'est un sucre d'orge, il s'effrite, quand il a les adducteurs qui sifflent, il a mal à l'avant-bras, on a l'impression que c'est, tu sais, le match des anciens, il a 78 ans. Non, mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'a foutu avec un mal au bras? Mais attends, avec date, t'as pas mal au bras? Même si t'as mal au bras, tu fais deux piqûres.
Ouais, tu joues depuis que t'as 4 ans. Tout petit. Tu joues depuis très longtemps déjà.
Mais à 20 ans, tu joues depuis tout le temps, parce que toi, tu crois que les mecs qui font du vélo, ils attaquent à 18 ans. Les mecs qui font de la boxe, ils attaquent à 25 ans. Tout le monde joue depuis tout petit. Donc, à un moment donné, lui, on a compris, c'est un Flamirail. On a compris. Donc, lui, vous le voyez, successeur de Nadal. Ah, écoute-moi, je mange un rat, c'est un successeur. Il va faire 3 grands chelems en 20 ans de tennis. C'est déjà pas mal, mais pas plus. Lui,
Donnez, faites une piqûre, il faut le calmer, s'il vous plaît.
Lui, c'est le successeur d'Henri Lecomte. Non, mais c'est déjà très bien parce qu'Ariol l'embrasse et qu'il est très bon.
Il a déjà gagné deux grands chelems.
D'ailleurs, et en plus, il ira comme j'aime lui, parce que lui, il joue fou comme il est, le petit Alcaraz. Il va prendre une bedaine quand il va arrêter. Écoute-moi, il va avoir le nombril. Le nombril, c'est le loin de la colonne.
C'est le nouveau Riton, quoi.
C'est Riton.
Ah, vous êtes dur avec le compte. Le compte est bon.
Oui, bien, Stéphane. Rendez-vous cette semaine.
Marion, tu n'as
pas. C'est quand même qu'un début de semaine, là. Va pas falloir nous laisser choses là.
Marion, tu n'as pas peur de t'ennuyer, toi.
Oh non.
Mais non, mais pas du tout. Mais niveau tennis masculin, il est devenu stratosphérique. Effectivement, malheureusement, il y a des joueurs qui se blessent parce qu'il y a une intensité, des frappes de balles. Aujourd'hui, les coups droits du fond du court en moyenne sont mesurés quand même à 140 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de frapper la balle à 140 000 km/h. C'est devenu un sport qui est d'une exigence qui est absolument hallucinante. Et oui, bien sûr, les trois nous ont habitués à des standards, mais qui sont quasiment... Enfin, je vais pas dire irreproductible parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, vous pouvez pas demander à la nouvelle génération d'être sur des bases et d'aller gagner 20 grands chelems et plus. C'est pas possible. Et ça serait d'ailleurs délirant de leur demander ça. Moi, au contraire, je trouve qu'ils sont arrivés justement dans une ère où ça paraissait impossible de prendre la relève de ces trois monstres tellement ils avaient mis la barotte. Et par des personnalités différentes, par des jeux différents, ils arrivent à attirer un nombre de spectateurs, un nombre de fans quasiment tous les matchs où Alcaraz joue, le stade est plein. Sinner, il a une cote de popularité qui est quand même énorme. Quand tu vois les marques qui s'intéressent à ce genre de joueurs, Netflix qui suit Alcaraz, qui fait une série rien que sur lui, ils sont arrivés justement à prendre la relève. Et pourtant, la mission était quasi impossible. Parce qu'encore une fois, quand t'as Roger, Rafa, déjà en termes de cote de popularité, de nombre de fans dans le monde entier, se dire qu'il va y avoir des gamins qui vont arriver et qui vont avoir assez de prestance et de niveau de jeu pour intéresser les gens, et je parle même pas de Nova qui lui est passé encore dans une autre dimension de notre planète, tu disais que c'était quasiment impossible. Et ils sont arrivés, justement, eux, surtout, moi je vais dire les deux derniers, Alcaraz et Sinner, qui vraiment ont cette capacité à transcender les foules. Quand on voyait sur les tons à quand ils sont affrontés, les
gens étaient... la chanson, possible,
non, mais, les, foules, non, mais les gens étaient vraiment passionnés.
Oui, on s'en fout qu'il y ait une série sur Netflix,
jeu...
ce qu'on veut, c'est des grands matchs.
Mais le niveau de jeu est monumental, Pierrot. Le niveau de jeu, il est monumental. Est-ce que tu te... Regarde les matchs de Sinner contre Alcaraz, regarde le niveau de jeu. C'est monstrueux la manière dont il joue. C'est monstrueux. Et ne t'y trompe pas. C'est pas parce que les noms sont moins connus que ça joue pas. Hein.
Écoute, Pierrot, ça fait combien de temps que tu fais le Moscato Show?
17 ans.
Trop longtemps.
17 ans. Eh ben, au début du Moscato Show, c'était un petit peu le début aussi de Roger Federer et Rafael Nadal.
C'est nous qui les avons fermés.
Un petit peu.
On a débuté en 2007.
Et vous avez débuté en 2007. Donc Federer était déjà quand même bien installé. Vous avez vécu pendant 17 ans sur ce qui se fait de mieux et ce qui s'est fait de peut-être plus jamais dans le monde du tennis. Les trois garçons. Et le deuil est difficile. Le deuil est difficile parce que tout paraît fade maintenant. Et ces garçons-là, Sinner, Alcaraz.
C'est pas fade.
Bah, non, c'est pas fade. Mais après, c'est trois-là, tout te paraît un peu compliqué, le deuil est dur. Ouais, laissez-leur le temps d'écrire leur histoire, ça débute. Alcaraz, Sinner, ça débute, Pierrot. Peut-être que dans 6-7 ans, on te souhaite que tu sois encore là avec Vincent et avec vous, et peut-être que là, on sera à l'apogée du duel Sinner-Alcaraz, ouais, regarde... 22 ans et 21
Steve.
Ans. Oui.
Steve, regarde le niveau du match de Zverev contre Nadal à Roland avant que Zverev s'arrache complètement la cheville. Le niveau était monumental.
Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Zverev nous a laissé cet espoir-là. Et Zverev,
Il est pas revenu, il est pas revenu,
et moi je me fiche quand je me
dis,
je me fous qu'il soit top 10, je me fiche de son classement. Ce que je veux voir, c'est des affrontements mythiques, c'est-à-dire qu'avant Federer et Nadal et Djokovic, il y avait des Becker Sampras de folie, des Agassi aussi, et le feuilleton il vivait comme ça toute l'année. Il n'y avait pas besoin ni de Federer ni de Nadal ni de Djokovic. Et pour l'instant, moi je suis désolé, pour l'instant je ne le vois pas, et ça commence à faire un moment qu'on attend.
Il faut l'assumer, il faut qu'il se construise une histoire au-delà du niveau stratosphérique.
Alcaraz Sinner de ce niveau.
Mais regarde la finale Alcaraz Djokovic à Wim l'année dernière. Mais regarde le niveau de jeu.
Marion et Stephen, vous parlez en tant que...
D'accord, mais les dents.
Marion, c'est normal, vous parlez en tant que érudit de tennis, fan de tennis, spécialiste. Le grand public, ces 15 dernières années, le grand public ne suivait pas le tennis toute l'année, cochait la case. s'il y avait une finale à Wimbledon, Federer Nadal. Il l'a coché quoi qu'il arrive. Pour l'instant,
laisse le temps de cocher la case.
Il faut du temps. Pour l'instant, personne ne coche la case sur son calendrier. Racine Victor n'est pas encore là.
Adrien, tu veux que je te sorte les finales de Roland où Federer s'est fait découper en rondelles par Nadal, ça a duré 2 heures. Donc c'est pas. Non mais c'est basé. Tu sors des trucs, c'est basé sur les noms parce que tu connais le nom.
C'est basé sur l'histoire et le passif. Il n'y a pas assez de passif entre ces joueurs-là.
C'est normal, il commence.
Je pense que là où vous, je me permets, faites une petite erreur. Vous dites il commence, soit, mais ça veut dire que ceux d'avant là, c'est déjà un échec. Medvedev, Tsitsipas, Zverev, on n'en est pas là. Et eux, on les a attendus quand même.
Pierrot, souvent, il me disait que le tennis actuellement masculin devient presque aussi chiant que le tennis féminin.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je trouve que justement le niveau de jeu même pratiqué par Medvedev quand tu vois la finale de l'US Open l'année dernière contre Djokovic où le niveau il est juste j'étais en bord de terrain, j'ai commenté la finale en bord de terrain, je me demandais même comment il faisait pour récupérer entre chaque échange c'était 25 balles, il jouait en ping-pong à droite et à gauche ou 35 degrés, c'était de la folie, vous faisiez de l'humour sur
le tennis féminin, mais le parallèle il peut être fait parce qu'on a mis du temps à faire le deuil de Serena Williams et aujourd'hui il y a une rivalité entre Sabalenka et Gachetek, un match exceptionnel.
Mais là, c'est pas encore.
Et ben, pardon.
On ne sait pas.
Tu vois pas le nombre de temps qu'il y a entre les deux.
Mais parce que Serena a vampirisé le.
Qu'est-ce qui marque le décennie avec des joueurs exceptionnels? C'est des matchs référence.
Plusieurs
matchs d'anthologie, des finales qui durent pendant 4h30 avec une intensité pas possible. Ça va arriver. Pour l'instant, ces jeunes joueurs ne nous ont pas montré.
Il y en a eu. Il y en a eu pas.
Il
y en a eu avec Djoko.
Le problème, c'est que tu fais la finale en 98. Tu mets 20 ans pour en faire une autre en 2019. Tu crois que les générations de ce talent-là se remplacent du jour au lendemain?
Ça peut arriver, il n'y a pas de règle.
Tu peux y avoir un trou. Ça peut arriver, mais tu peux avoir un trou de quelques années. Et alors, on essaie toujours de trouver des remplaçants. Mais il ne faut pas se forcer, les remplaçants sortent d'eux-mêmes. S'il n'y a pas des matchs références, on pourra dire qu'un Sinner aura fait un match extraordinaire. Il en a fait. Mais un truc qui reste dans l'histoire pour le grand public. Pas pour vous, les professionnels.
Au-delà du tennis.
Quelque chose qui marque.
Oui, Vincent, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ces garçons-là, quoi qu'on en dise, ils seront toujours comparés à ce qu'ils ont fait les 3-6.
C'est normal.
Vous attendez des matchs exceptionnels. Alcaraz Sinner ont joué des matchs exceptionnels. Sauf que c'est Alcaraz Sinner. Et dans votre imaginaire, c'est moins
qu'un camp Federer,
Djokovic et Nadal. C'est ça le problème.
Exactement.
Laissez-leur leur chance.
Et Eric Salio, quelle est la dernière période chez les hommes où on s'est ennuyé? Quel est le dernier creux où tu t'es dit, toi qui suis le tennis depuis 70 ans tous les jours, tu t'es dit là c'est nul.
Début des années 2000, à la retraite de Sampras, avant que Federer arrive.
Ce qui m'intéresse, c'est que Clayton Newman, Alcaraz et Sinner, on les a sous la main. Mais le problème, c'est qu'ils pètent comme du verre.
Ah, ça, c'est un problème.
Mais tous les sports ont évolué.
C'est pas normal que les mecs qui pètent.
C'est fantastique. Les mecs, on les a retrouvés 15 jours plus tard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont montés trop vite, qu'ils n'étaient pas prêts pour le haut niveau. Mais là, ils pètent.
Parce que
ne
remplace pas des mecs.
Parce que leur musculature fait qu'effectivement, ils ont plus de pépins que les autres. Mais les Federer, Nadal, quand ils sont arrivés, dis-toi bien que vous me citez des noms de joueurs. Ce n'est pas reproductible, mais
oui, mais il y en a eu d'autres des grandes générations. Wielanders était fantastique.
Il y a un écart entre le niveau des années 80 et le niveau de maintenant. Longtemps que des fois les premiers matchs, il s'en souvient plus.
Sur le forfait des mecs qui se soignent, qui prennent leur temps, est-ce que l'objectif Jeux Olympiques joue pas aussi sur
Il y a trois grosses échéances d'affilée qui arrivent et du coup ils prennent des assurances.
C'est l'heure du journal moyen. Première édition sur RMC. On remercie Eric Salio.
Merci Eric. Journal moyen, première édition. Vincent, hommage à un grand monsieur Bernard Pivot, dont nous venons d'apprendre la disparition à l'âge de 89 ans, qui a été le parrain du Moscato Show. Il avait même créé une chronique régulière du Super Moscato Show qui s'appelle Apostrophe. On va lui rendre hommage tout de suite dans le journal moyen.
15h46, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h48, le Super Moscato Show, c'est le journal moyen première édition d'Adrien Aigouin.
À la une du journal moyen première édition aujourd'hui sur RMC, Vincent, c'était pas prévu, mais c'est l'actualité. Hommage à Bernard Pivot, qui est un des parrains du Super Moscato Show, puisqu'il aimait les mots comme nous. On adore les mots, Vincent.
Bien sûr.
Éric Dimeco, très bon, dans une nouvelle publicité, avec un jeu d'acteur incroyable. Et puis. Bon, si on n'a pas le temps aujourd'hui parce que c'est un peu bousculé, ouais. Promis, ça va tomber dans la semaine. Hein. Et puis petit détour par Rio de Janeiro, Vincent, tu vas très mousser ton
Madonna.
Petit popota. Madonna. Voilà. Madonna, incroyable succès.
Un million, quoi.
Vous écoutez RMC, c'est le 1824e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Vincent, il est 15h49, générique mythique. Eh oui. C'est le générique d'Apostrophe. Oui, nous avions créé, nous, Apostruf, la culture pour les truffes, parce que nous sommes le Moscato Show. Mais Apostrophe était présenté par Bernard Pivot, dont nous venons d'apprendre la disparition à l'âge de 89 ans. Écrivain, présentateur, journaliste, passionné de sport également, puisqu'on est une émission de sport. Il était fan total des Verts en foot. Il racontait les histoires, il les écrivait. Il était.
Il avait reçu Mohamed Ali dans les années 70.
Ah, ben justement, Vincent. Alors, pour te faire plaisir, puisqu'on est l'émission de la boxe, Bernard Pivot un jour reçoit dans son émission Mohamed Ali, une audience incroyable. C'était des émissions qui étaient regardées par peut-être 10-15 millions de téléspectateurs. Mohamed Ali qui sortait un livre, Mohamed Ali, reçu par Bernard Pivot. La question très connue, la belle question de Bernard Pivot à Mohamed Ali, et la réponse du grand champion, c'était dans les années 70, Vincent.
Bonsoir à tous. Il se dit lui-même le plus beau, le plus intelligent, le plus grand. Le plus grand est d'ailleurs le titre de son autobiographie. Ouais. Le seul titre qu'il ne revendique pas, c'est le plus modeste. Mohamed Ali, avant-hier, dans l'autobus, un noir m'a abordé et m'a dit « Après-demain, je ne manquerai pas Apostrophe, car vous recevez le grand. » Il n'a pas dit « le plus grand », il a dit simplement « le grand ». Et j'ai trouvé que c'était à la fois plus fort et plus affectueux. Mais enfin, êtes-vous vraiment le plus grand ?
When I say, or use the term greatest, I'm only referring to boxer.
Bien, Salinger.
Alors, il répond que quand il dit qu'il est le plus grand, il réfère seulement à l'art de boxe.
Seulement à l'art de boxe. Voilà. Rigolez pas, hein, Mohamed Ali, hein, face à Bernard Pivot. Vous vous souvenez des images?
C'est un peu. Parce que je l'ai lu, moi, j'avais 15 ans, je l'ai lu, le plus grand. C'était un bouquin incroyable. Incroyable. Vraiment, c'est. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de biographies, de rugby, de
football. Non, aujourd'hui, il y a toutes les deux semaines, il y a un sportif.
C'était Mohamed Ali, je l'ai lu, ce bouquin.
Et Bernard Pivot recevait donc des écrivains, des journalistes, des acteurs et de grands sportifs, Vincent. Et il nous avait aidé à créer cette rubrique Apostruf, la culture pour les truffes. Parce qu'il savait rire aussi, Bernard Pivot, dans son émission. Ben, ouais. Souvenez-vous, on en avait fait un jingle.
Oh,
un jour, il remercie tous les écrivains. Ils ont passé 2 heures à parler de littérature, etc. Et puis, avant de rendre l'antenne, ça se termine comme ça.
Merci à tous. Et comme je vous l'avais bien dit, finalement, j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.
Et ont parfois de drôles de hommes.
Et voilà, Roger Pierrefitte.
Le timing, mais c'est de la comédie, c'est extraordinaire parce que le timing est super bon. Et la voix du mec, une voix comme ça n'existe plus, des voix comme ça.
C'est extraordinaire. Aussi.
Et oui, en fait, Apostrophe était devenu bouillon de culture dans les années 90.
Et après, c'est devenu TPMP avec.
Avec
Baba. Oui. La chute.
TPP et les Marseillais.
Et après, c'est ça.
Bernard fait l'apparition dans les Marseillais.
C'est une télé-réalité.
Et il y avait la dictée de Bernard Pivot, bien connue. Où, moi, je me souviens, ma grand-mère me disait mercredi après-midi, c'était une fois par an, tu te mets devant la dictée. Il y avait différents niveaux quand même, parce que le niveau high level, là, c'était compliqué.
Moi, je fais deux fautes au niveau high level.
Deux fautes dans
la première phrase.
Son premier mot.
C'est
une belle perte.
Dans dictée, j'écris AI à la fin de dictée.
Oui. Disparition, ça coïncide, c'est aussi les mêmes périodes. Disparition d'une institution. C'est la disparition d'une émission culte à la télé. Vous avez tous regardé ça. à l'antenne depuis 1972. Après 52 ans de présence, le jeu télé des chiffres et des lettres ne sera pas reconduit à la rentrée. Annonce de Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Ça marchote, c'était bi-hebdomadaire le samedi et le dimanche, c'était plus quotidien. Il a annoncé ça dans la tribune. C'est la raison principale, c'est les économies. Il faut faire 200 millions d'économies dans le service public. Les fans sont très tristes, Vincent. Il existe 250 clubs.
Ceux qui sont pas
des chiffres et des lettres.
L'audimat était exactement le même. Ils sont aperçus que les gens étaient morts de leur canapé.
Avec
il y aura une émission d'adieu avec Laurent Romeschko et le grand Patrice Lafont, qui a 85 ans et toujours le producteur de l'émission. Cette émission réunissait dans les années 80, c'était avant le journal de 20h, 7, 8 millions de téléspectateurs au quotidien.
Depuis Gamay,
au quotidien,
avec un cahier, des
baguettes,
des stylos et on essayait.
735, ouais. Pas mieux.
Moi j'adorais faire le calcul mental.
Max, il arrivait comme bon, calme, placide. Non, Max, le mec qui faisait les Bertrand. C'est pas Max.
Bertrand.
C'est pas loin. Max, c'est ça. Non, mais il devait y avoir un Max quelque part.
Alors, attends,
il y a
Lévi. Et vous savez,
ah, oui, c'est ça. Donc lui, il arrivait placide. Par contre, lui, pas d'infarctus. Calme.
Alors, souvenez-vous, moi je me disais à quoi pense Patrice Lafont quand les candidats réfléchissent. Ça a duré longtemps parfois.
Oui.
BFM TV, il y a quelques semaines, a posé la question à Patrice Lafont. À quoi vous pensiez quand les candidats réfléchissaient, faisaient leurs calculs ou cherchaient les mots?
Le présentateur, comme pendant les 45 secondes de l'événement cherche, pardonnez-moi l'expression, s'emmerde.
Ah, oui, d'accord.
Les autres, ils grattent et vous êtes là, vous faites comme ça. Alors si vous faites, on dit, ils se foutent de notre gueule. Si vous faites comme ça, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a de s'emmerder. Et moi, à certains moments, c'est vrai que j'avais un certain ennui, et que pour l'anecdote, je m'étais fait mettre à l'époque de Roland-Garros un écran en face de moi, et pendant que les candidats cherchaient, moi, je regardais Roland-Garros. Et j'arrivais, je disais, ça fait 6-3. Non, excusez-moi, ça fait pas 6-3.
Très bon, Patrice Lafont. Patrice Lafont.
C'est un vrai personnage.
Ce matin, c'est un sujet d'actualité.
Tu fais Fort Boyard avec lui.
Certains ne sont pas contents, puisque pour certains, dans les grandes gueules, notamment ce matin que j'ai écouté sur RMC, c'est une mission de service public, de réfléchir sur les maths, sur les mots. Donc il faut qu'une chaîne récupère cette émission, c'est pas possible. Ouais. Les grandes gueules ont évoqué le sujet, donc ils n'étaient pas ravis, et puis forcément. Je sais pas pourquoi ça tombe sur le Moscato Show, ça devient grave, Vincent. Les grandes gueules ce matin.
Non.
Moi, j'appelle le nouveau patron de BFM et d'RMC, là, Rodolphe Sadé, de racheter les droits des chiffres et lettres et de les mettre à l'antenne. À un moment donné, tu les mets à l'antenne.
Pas à la place des grandes gueules. Hein.
Non, bah non, pas à la place des grandes gueules. Ou alors, bon, en tout cas, ça
rendrait. À la place du Moscato, au moins, on apprendrait quelque chose. Parce que quand t'écoutes le Moscato Show, les chiffres et les lettres, c'est pas trop
leur truc. Tu as bien Vincent Moscato faire les chiffres.
C'est leur truc quand t'es sur les temps des matchs. Là, les chiffres, ils connaissent 90 minutes ou 80 minutes.
Les trois points.
Les, voilà, après les lettres. Là,
ah, vas-y, t'apprendrais des nouveaux mots. Je pense qu'avec Vincent et Eric Dimeco.
Ah oui, c'est ça,
les chiffres et des onomatopées.
Ça serait pas mal pour eux, ça leur ferait du bien.
Alors que quand on écoute les grandes gueules, on en ressort plus
de timide. Exactement.
Vincent, ah non, oui, non,
est-ce que ça vous répond, Vincent?
Oh non, je préfère les bâcher de loin sans rien dire. Non, mais c'est ce mépris qu'ils ont.
On va aller sur le plateau un jour, toi et moi.
Ah oui, il faut y aller.
Attention, je te l'ai dit. Je t'ai dit, attention, Marshall. Il s'entraîne avec le banner.
Il s'entraîne avec le banner.
Il a moins du bois, je te le dis.
Hein. Ouais, arbitre, vas-y.
J'ai tous été défoncés, tu vas voir.
On les embrasse. Salut,
Charles Consigny, il parle d'onomatopée, Charles Consigny.
Charles Consigny, oui.
Déjà, oh, c'est mignon.
Déjà, Charles.
Déjà, au moins,
oui, il a
déjà, au
il
n'y
a pas de boulard, mais non plus.
On est flattés.
Il nous connaît.
Il nous connaît. Oui. On est flattés. Je pense qu'il venait de découvrir ce que c'était le Moscato Show.
On peut l'inviter un jour, 3h00.
Merci, Charles. Merci vraiment. Merci d'avoir parlé de nous.
Avoir son avis sur le 3-5-2 de l'OM.
On va le consigner 3 heures.
Dans un instant, le PSG peut-il être confiant? Vincent Moscato règle le problème.
Ah, on a pas écouté Eric Dimeco.
C'est la méthode Coué en
demain,
ce moment.
Demain, Eric, c'est
pour demain avant la demi-finale. Retour de Ligue des Champions. À tout
15h57, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.